Bonsoir cher Xavier.
Bonsoir Arnaud.
Alors je vais paraphraser Raymond Depardon et vous demander, Afrique, comment ça va avec le cinéma?
Oh, ça va pas mal, mais c'est toujours difficile. Et précisément, je voudrais commencer par vous parler de Wooloo, en dire quelques mots.
On en parle donc tout à l'heure. Hein.
Voilà, vous allez en parler dans quelques minutes. Je vais simplement préciser qu'il fait partie de cette création ouest-africaine qui attire le regard des festivals ces dernières années. Sa production parle d'un Scarface africain. C'est vrai que c'est un thriller sur fond d'histoire réelle. Et dans toutes les têtes au Mali, c'est l'affaire Air Cocaïne et c'est l'occasion de mettre en scène les espoirs d'insertion brisés et les rêves d'ascension déçus d'un jeune à Bamako. Son réalisateur, donc Daouda Koulibaly, dont c'est le premier long métrage, est aussi le plus jeune représentant d'une génération de cinéastes franco-africains, mais pas seulement, nés dans les années 70, appréciés relativement à l'étranger et qui tente en effet de renouveler la production sur place en Afrique de l'Ouest. Parmi eux, on trouve la Burkinabé Apolline Traoré, qui vient de remporter deux prix au FESPACO avec Frontières, la franco-sénégalaise Diana Gaye, qui s'est fait connaître avec cette comédie musicale Transport en commun, et puis le film Des étoiles, qui apparemment a moins plu. Alain Gomis aussi, réalisateur de Félicité, sorti en mars en France et étalon d'or au FESPACO, grand prix du jury à Berlin. L'histoire d'une mère courage, comme on dit tous les journaux, à Kinshasa, comme beaucoup l'ont dit aussi, et un cri du cœur pour la femme africaine, disait Alain Gomis. C'est vrai que ces personnages de femmes plus ou moins allégoriques sont un des traits de ce cinéma. C'est aussi un moyen de voyager dans l'Afrique qu'on pourrait dire minoritaire, celle de l'oppression politique et sociale, quitte à parfois passer au film qu'on appelle de genre justement. C'était le cas de la comédie musicale Transport en commun, celui de La pirogue aussi, de Moussa Touré, sénégalais en 2011, un huis clos et un film plutôt épique sur la migration risquée des Sénégalais en haute mer et sur les rapports de pouvoir qu'elle implique. Cette migration. Alors tous ces films percent en festival, ils s'esquissent de plus en plus sur les écrans français, quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'entrées, et ils jettent de nouveaux yeux sur l'Afrique, plus crue, plus brutale, cette Afrique. On peut dire en gros que l'esthétique s'est libérée de ce qu'on appelait le film calebasse, c'est Thomas Sentinel qui l'appelle comme ça dans Le Monde, ces films qui présentaient l'affrontement pittoresque entre tradition et modernité en milieu rural. Maintenant, ils plongent dans la vie quotidienne et urbaine, l'actualité politique, qu'il commence même à revisiter l'histoire du continent. Et puis, un fait intéressant, les langues locales sont de plus en plus utilisées. Wooloo, par exemple, c'est le deuxième titre en Bambara pour Koulibaly. Et déjà en 2013, le site africavivre.com disait du film « Des étoiles » donc de Diana Gaye que, je le cite, « les dialogues en wolof italien, français, anglais et même Nouchi, qui est le français de Côte d'Ivoire, font émerger des figures de migrants africains enfin réalistes, éloignés des clichés misérabilistes et communautaristes trop souvent développés au cinéma. » Et d'ailleurs, même les générations précédentes de cinéastes ont infléchi, on pourrait dire, leur production. Ça donne Bamako, Timbuktu à Abderrahmane Sissako, juste après le film Rapt à Bamako, qui était le premier film de genre aussi de Cheikh Ourhmane Sissoko, le réalisateur malien né en 1945 et grand parrain du cinéma ouest-africain. Mais c'est vrai, on pourra en reparler, depuis 20 ans au moins, cette production africaine reste embryonnaire, surtout au regard de nos critères français, filière peu équipée en salle, soutien étatique faible malgré quelques démarrages comme le Maroc et des mobilisations régulières des pouvoirs publics. Il y a bien quand même, je les ai notés, quelques producteurs locaux pérennes avec déjà une certaine puissance. Astou Film au Sénégal qui avait déjà produit La pirogue de Moussa Touré. En fait, c'est quasiment le même réseau qui est utilisé pour Wooloo justement. Et puis Apolline Traoré au Burkina produit tous ses films directement sur place. Mais c'est vrai que la situation de sous-financement est chronique. Bamako, Timbuktu, La pirogue, Félicité, Wooloo, tous sont des coproductions largement françaises. C'est un cinéma qui marche sur une jambe, disait Daouda Koulibaly. Nous sommes dans la pire situation qui soit. Alors le parcours de Wooloo sera donc un témoin de ces évolutions et perspectives pour le cinéma africain. Thriller léché, dit Jeune Afrique, peut-être trop. Attention quand même, Wooloo n'est pas un film pour les festivals de Toubab, s'empresse de dire son producteur français Éric Névé à l'AFP. On comprend mieux en tout cas le sens dans les journaux ces dernières années de cette nouvelle vague où ouest-africaine, comme le qualifie ou le souhaitent certains critiques, par exemple au FESPACO, assez diverses, pauvres en moyens évidemment, mais qui a quand même le désir de coproduire et produire plus encore en Afrique. Alors Thomas Sentinel disait que le cinéma africain tournait le dos au village. Sans doute, quelle chance y a-t-il qu'il puisse rencontrer en salle un public en Afrique et au-delà des festivals et de la France?
Voilà, une grande série de questions, mais c'est important, on parlera tout à l'heure on le séparera de Wulu, nos regards critiques, hein, c'est l'objet de cette émission, mais plus largement, c'est vrai que c'est intéressant de s'intéresser à cette production, aux producteurs, aux réseaux, à la façon dont les films sont produits, montés, vus, Thierry Chaise.
Ah oui, le premier problème de base, alors on a d'abord dit, il y a très peu de salles, mais comme beaucoup l'ont dit, en fait, c'est juste la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a toute une filière, en plus nous on le voit avec notre regard français, mais de la production, de la distribution et de l'exploitation, qui ne fonctionne pas parce que les États aident de moins en moins, alors à l'exception en effet du Maroc par exemple, et parce que les investisseurs privés ne se précipite pas, se disant il y a rien à gagner. Alors il y a bien Vivendi, je sais qui ouvre quelques salles, par exemple plusieurs salles, un parc de salles en Afrique et tout ça, mais ça reste des choses isolées. Donc pour l'instant, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi peu de filières, parce qu'au moins cette filière est quasiment cassée. Et donc les films arrivent, heureusement, avec l'aide du CNC, le fameux Fonds Sud, qui n'aide pas que l'Afrique, mais qui aide tout le monde et qui permet en effet des choses. Mais pour l'instant, c'est un État qui a de rares pays prêts. Est tellement moribond que c'est presque des miracles à chaque fois, j'ai l'impression, moi, donc de ce qui peut nous arriver et ce qui peut se produire. Donc c'est en effet un phénomène pour l'instant compliqué.
Bon, on a quand même le sentiment, et peut-être quand même plus que le sentiment, que les miracles sont plus fréquents quand même ces dernières années. On voit émerger de véritables figures de cinéastes, figures nouvelles, parce que pendant très longtemps, on avait des grands anciens. Il y a du sang neuf et de l'air frais quand même, Antoine Guillaume.
Oui, mais écoutez, les noms qu'on vient d'énumérer, ce ne sont pas tant des cinéastes africains que des cinéastes originaires d'Afrique.
Le plus souvent formés en Europe, voire en France.
Et même totalement français, qui retournent pour leur début cinématographique sur leur continent d'origine pour raconter des histoires. Mais ce sont des films qui souffrent d'une certaine manière de la réglementation française. Vous parliez tout à l'heure de la question de la langue. Pour avoir le plus haut niveau d'agrément d'un film et donc tous les financements qui vont avec, fonds de soutien, etc., il faut que le film soit parlé à 50% au minimum en français. Alors on se retrouve parfois dans des aberrations, c'était le cas dans La Pirogue. On doit prendre des comédiens noirs qui généralement viennent de banlieues parisiennes et qui parlent même avec un accent qui marque quand même très fort leur origine et ne rend pas le film très crédible. Ou alors, et on en parlera avec Wulu, on trouve des solutions cinématographiques pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va parler en français pendant les 50% du film. Et c'est vrai que c'est déjà un problème parce que ça ne donne pas non plus une représentation exacte de ce que peut être l'Afrique. Et quand on avait parlé du film d'Alain Gomis, on se félicitait justement d'entendre parler une langue locale et non pas le français.
Diana Gaï qui avait fait le choix, nous on avait beaucoup aimé ce film, hein, s'il avait peut-être été moins bien reçu, nous on l'avait aimé, de faire entendre les différentes langues et les différentes migrations aussi.
Oui, et puis ça montrait, effectivement, c'était très représentatif de ce qu'est Diana Gaï, qui est à la fois sénégalaise d'origine, mais française, italienne, et avec un amour des États-Unis. Qui fait que toute cette culture, et c'est là que c'est le plus intéressant quand on dit qu'on sort du film Calebasse, ces films au moins montrent où on en est de l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de films africains dans la mesure où vous le dites, il y a très peu de salles et quand elles sont ouvertes, elles s'adressent à un public de privilégiés parce que la salle de cinéma, si on le rapporte au salaire moyen, le prix d'un ticket de cinéma est extrêmement cher et il y a des films africains qui sont vus en Afrique mais qui sont vus comme on peut les voir, c'est-à-dire dans des sur des télévisions où tout le monde regarde ou par diverses formules de piratage plus ou moins officielles qui sont des productions locales que nous ne voyons pas en France, qui sont les films de Nollywood en particulier, les films produits au Nigeria et qui sont sans doute ce vers quoi il faudrait se pencher pour avoir une image précise de ce que les gens consomment sur place, donc l'image qu'eux-mêmes perçoivent de leur propre société.
Ouais, mais quand même évidemment intéressant que des cinéastes originaires d'Afrique, dont les familles sont originaires d'Afrique, puissent aujourd'hui montrer une réalité de ces pays-là.
Mais finalement, et c'était ça, déjà vraiment le cas pour les générations précédentes, puisque Mahamat Saleh Haroun, avant de devenir ministre de la Culture au Tchad, habitait en France. Abderrahman Sissako passe la plupart de son temps en France. Ces films ont tous été montés avec des financements français, ce qui ne les a pas empêchés de raconter ce qui se passait.
Oui, mais leur nombre était quand même, et leur fréquence était quand même moins importante que ce qui se passe ces dernières années,
oui,
qui quand même a plutôt réjouissant.
C'est un effet générationnel, sans doute, de ces enfants issus de la première ou deuxième génération d'immigration.
Charlotte Garçon.
Oui, y compris des gens qui ne sont pas seulement des gens qui vivent en France ou qui sont français, mais il y a aussi, par exemple, Rungano Nioni, je ne sais pas si... Alors, à Cannes, c'était à la quinzaine des réalisateurs, I am not a witch, je ne suis pas une sorcière. C'est un premier film remarquable visuellement, enfin, dans son montage, dans ce qu'il dit aussi, d'une zambienne. Et c'est un film britannico-franco-allemand, mais qui est vraiment, qui dit quelque chose de la société zambienne, sous forme un peu de fable, mais sur la question des croyances dans la sorcellerie, mais qui est vraiment un problème de société dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Et ce même problème apparaît d'ailleurs dans un autre film qui a reçu en mars le Grand Prix du Festival Cinéma du Réel, qui est Maman Colonel de Dieudo Amadi, qui est lui un Congolais, alors formé en partie en France, mais qui vit au Congo et qui filme le Congo, parce qu'il y a tout cet aspect documentaire. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, je pense, quelqu'un d'important dans le cinéma direct. Il est jeune, mais il a vraiment une idée du documentaire qui est très ambitieuse. Et il donne à voir la société de son pays. Donc voilà, donc c'est pas, faut pas croire non plus que... C'est pas parce que les films circulent dans des festivals que c'est, voilà, qui sont pour les toubabs et horriblement corrompus. Et voilà, enfin non, heureusement... Ça circule un petit peu, ça.
Ça circule. Gaël Martinet ?
Oui, en tout cas, je suis content que vous ayez, Charlotte, parlé de ce film zambien, parce que c'est vrai que je me suis concentré sur la production ouest-africaine et francophone. Et comme Antoine le disait, si on veut compléter le tableau, il faut insister sur le fait qu'il y a déjà une industrie qui est très puissante, effectivement, en Afrique, qui est celle de Nollywood. Dans une moindre mesure, c'est l'industrie ougandaise aussi de Wakaliwood, je crois, et qui, elle, diffuse largement sur VOD, à la télévision, des films de tout budget, de tout genre, de toutes sortes. On voit même... des super productions, une des dernières, comme c'est un des thèmes récurrents sur les enfants soldats, c'était Beast of No Nation, qui va être diffusé en salle. Du côté de l'Afrique du Sud, on a effectivement des coproductions très importantes qui se font aussi. C'était le cas pour District 9, je crois, en 2009, qui avait été coproduit avec la Nouvelle-Zélande, il me semble. Simplement pour expliquer qu'effectivement, ce sera sans doute difficile pour une production francophone, une production sans doute un peu autorale. Parfois, on le voit avec certains films. Là, je pensais à Ibrahima Touré, qui est un Sénégalais, malien, pardon. Le film n'a pas été montré en salle, mais c'est un film qu'il a fait tout seul sur place. Ça s'appelait La Toile d'Araignée, et c'est typiquement le film, d'auteur dans lequel on peut voir se mettre en place tous les mécanismes d'oppression sociale. Un film à 274 000 euros, quand même, qu'il a réussi à réunir tout seul. Et je termine là-dessus pour donner une note, quand même, optimiste sur ce cinéma ouest-africain. Il me semble que les budgets augmentent. En tout cas, c'était le cas pour Voulou. C'est quand même 2,5 millions d'euros, on n'est pas très loin de certaines productions françaises qui finalement arrivent aussi en festival et en salle.
Bien, pour ce point concernant un certain cinéma fait en Afrique, évidemment, question qu'on suivra.